Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, Hong Kong vent debout contre la loi d'extradition vers la Chine.
C'est ça, un nouveau clou dans le cercueil de Hong Kong, disaient certains des plus d'un million de manifestants dimanche contre un projet de loi d'extradition voulu par l'exécutif hongkongais. Théoriquement, la région administrative spéciale de Hong Kong doit être semi-autonome jusqu'en 2047. C'est le sens de un pays, deux systèmes. Mais les pro-Pékin au pouvoir semblent vouloir aller plus vite, quitte à réveiller peut-être ou faire naître un nationalisme hongkongais. On voit ça avec vous, Jean-Pierre Cabestan. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct depuis Hong Kong. Vous êtes le directeur du département de sciences politiques de l'Université Baptiste de Hong Kong, chercheur associé à l'Asia Centre et auteur de Demain la Chine, démocratie ou dictature. Eh bien, c'est un peu l'alternative de Hong Kong aussi. Puisqu'après déjà jeudi 6 juin, une première manifestation rare hein, de environ 3000 juristes. Cette fois, c'était 1,03 million de manifestants selon les organisateurs. C'est un septième de la population dans la rue. En fait, on dit que c'est la plus grande manifestation depuis 1997, la rétrocession. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est exact. Depuis 1997, aucune manifestation n'a rassemblé autant de personnes. En 2003, lorsque les Hongkongais se sont opposés massivement au projet de loi de sécurité nationale qui avait été introduit par le gouvernement, 1,5 million de manifestants, 500 000 manifestants étaient descendus dans la rue. Il faut remonter à 1989, au massacre de Tiananmen, pour trouver un chiffre similaire. Alors, en juin 89, environ 1 million de Hongkongais étaient descendus dans la rue. Vous savez que c'était 8 ans avant la rétrocession, et donc les Hongkongais s'inquiétaient de voir Hong Kong revenir dans le giron d'une Chine qui restait hautement autoritaire et répressive.
Oui. Et autre fait sur ces manifestations, c'est qu'elles se sont terminées par quelques heures, alors pas massifs, mais quand même devant le Conseil législatif, entre la police et certains des manifestants qui avaient poussé des barrières. Je disais fait nouveau, c'est que les violences ne semblent plus rares lors de ces manifestations en fait.
Eh bien oui, la raison en est la frustration grandissante, notamment parmi la jeunesse. Le gouvernement reste sourd à toute revendication. Le mouvement des parapluies, il y a maintenant 5 ans, à l'automne 2014, a échoué après 79 jours d'occupation d'une partie du centre de Hong Kong. Et là maintenant, le gouvernement veut imposer cette loi de sur l'extradition, qui facilitera le transfert de criminels ou de suspects vers la Chine populaire, y compris de gens n'habitant pas Hong Kong, mais passant par Hong Kong. Donc ça concerne également les étrangers qui seraient susceptibles d'avoir commis des crimes ou des en Chine continentale. Donc il y a un sentiment de frustration grandissant parmi la jeunesse qui voit dans la désobéissance civile, mais aussi maintenant la violence, une manière de s'exprimer et de résister contre cette emprise grandissante de Pékin.
Alors on va dire un mot de ce projet de loi d'extradition, mais justement, population qui est sortie précisément contre ce projet, c'est ça qui a donné des manifestations aussi massives, où il faut aussi prendre en compte le climat de contestation et les 30 ans du massacre de Tiananmen, sachant qu'à Hong Kong, il y a chaque année des grandes commémorations hein, de ce massacre.
Oui, effectivement, le 30e anniversaire de Tiananmen a joué un rôle, mais je crois que plus que cette commémoration, il y a depuis plusieurs mois, même plusieurs années, une dégradation de la situation à Hong Kong en termes de liberté publique, de liberté politique. Les médias sont de plus en plus à la botte de Pékin. Des entorses ont été infligées, notamment à la liberté de publication, avec l'enlèvement d'un nombre de libraires. Certains hommes d'affaires chinois en délicatesse avec la justice en Chine ont été tout simplement enlevés par des sbires envoyés par Pékin. Donc, et on a le sentiment que Carrie Lam, la chef de l'exécutif, parle de plus en plus comme les gens du Parti communiste chinois. Donc elle ne représente de moins en moins les Hongkongais, de plus en plus les autorités de Pékin et Xi Jinping en particulier. Et puis en outre, vous avez un bureau de liaison de Pékin qui est de plus en plus interventionniste dans les affaires de Hong Kong et qui semble gouverner Hong Kong derrière le chef de l'exécutif.
Et alors, c'est Carrie Lam, chef de l'exécutif, qui a affirmé n'avoir, je cite, « aucun mandat de Pékin pour promouvoir cette loi qui permettrait l'extradition donc vers un certain nombre de pays avec lesquels Hong Kong n'a pas d'accord d'extradition, donc a fortiori Pékin, de toute personne qui serait suspectée de crime, je crois. Elle a affirmé n'avoir aucun mandat de Pékin. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est ça vous semble juste d'une part, et sinon, pourquoi est-ce que l'exécutif hongkongais pousserait au rapprochement ?
D'abord, Carrie Lam n'a jamais été élue par les Hongkongais. Elle est élue par un comité exécutif qui est à 90% dominé par des représentants de l'établissement pro-Pékin. Donc elle n'a pas été élue démocratiquement. Elle représente beaucoup plus Pékin que la communauté des Hong Kong. La deuxième chose, c'est qu'elle reste inflexible sur cette loi parce que Pékin lui a donné l'ordre de la faire passer. Et que sur beaucoup d'autres sujets, notamment l'intégration de Hong Kong à la zone de ce qu'on appelle le Greater Bay Area, à la zone du delta de la rivière des Perles, est une de ses priorités, voulant finalement transformer Hong Kong en une ville chinoise comme une autre.
Donc ce serait une manière de contourner finalement un pays de système, l'instauration de cette loi d'extradition.
Alors ce serait une manière surtout d'éroder le statut particulier dont Hong Kong bénéficie depuis 1997, dont il devrait jouir jusqu'en 2047. Je pense que c'est un pays de système restera en place, mais son contenu deviendra de plus en plus vide de sens et l'autonomie politique surtout de Hong Kong continuera, à mon avis, malheureusement, de perdre sa valeur.
Et alors vous avez cité cette affaire de libraire ou du milliardaire qui avait disparu puis réapparu en faisant des excuses des libraires critiques en 2015. Parmi les autres pas que pourrait faire Pékin, disons pour grignoter la souveraineté, il y a aussi la question des infrastructures qui a posé question avec l'instauration d'une ligne ferroviaire Hong Kong-Shenzhen fin 2018 et le pont Hong Kong-Macao. C'est à ça vraiment que servent ces infrastructures avant même, disons, la connexion, on pourrait dire, logistique ?
Oui, alors ces infrastructures et leur installation ont posé plusieurs problèmes, notamment la présence d'officiers de sécurité des frontières de Chine continentale à Hong Kong même, dans le cœur de Hong Kong, dans la grande gare de TGV de Hong Kong. Le problème pour le pont le reliant Hong Kong à Macao et à Zhuhai, c'est qu'il est totalement sous-utilisé et que c'est un investissement massif qui s'avère aujourd'hui non rentable. Donc c'était plutôt une arme politique destinée à intégrer plus encore Hong Kong dans le Guangdong que véritablement un projet économiquement viable. Mais je crois que par-delà ces projets, il y a manifestement une volonté de limiter toute opposition, toute critique du Parti communiste chinois à Hong Kong. Ça a commencé avec le bannissement du parti favorable à l'indépendance de Hong Kong et son démantèlement qui a été opéré grâce à une loi de répression des triades, des mafias, alors qu'il s'agissait d'un microscopique parti politique qui, à mon avis, ne présentait aucune menace à l'égard de Hong Kong et de sa sécurité.
Oui, et puis
donc l'environnement général, d'où cette frustration, d'où cette mobilisation massive des Hongkongais, mais alors vraiment de tous les milieux du territoire qui ont participé dimanche dernier à cette grande marche vers le siège du gouvernement et du Parlement de Hong Kong.
Et alors, 5 ans après la révolte des parapluies, quelles conséquences est-ce que vous verriez à court terme ? Est-ce que c'est une crise de légitimité pour cet exécutif qui, effectivement, n'a pas été élu, mais lui-même est issu d'une crise de légitimité, on pourrait dire, parce qu'il s'agissait d'une réforme électorale à l'époque, ou alors c'est effectivement le renforcement d'un certain nationalisme hongkongais avec un certain nombre de partis qui sont déjà apparus en 2016.
On est dans une situation de confrontation en fait grandissante entre le gouvernement central et de larges segments de la société hongkongaise. Je pense que aujourd'hui, Xi Jinping ne va pas céder, et que, donc les choses resteront en l'état. Maintenant, je crois que d'un autre côté, vous avez une capacité de résistance au sein de la société civile hongkongaise qui, si bien qu'elle ne puisse pas imposer une démocratisation du territoire à Pékin, continuera de pouvoir résister toute emprise qui pourrait contribuer à limiter ses libertés, notamment la liberté de manifester, la liberté de critiquer le Parti communiste et de critiquer le régime de parti unique en Chine.
Et éventuellement l'hymne national aussi, ben, ce sera à suivre dans les prochains jours. Et demain, pour le vote de cette loi d'extradition, on verra si elle passe. Merci beaucoup pour vos explications ce matin, Jean-Pierre Cabestan, directeur du département de sciences politiques de l'Université Baptiste de Hong Kong. On renverra bien sûr à votre livre sur le site des enjeux sur la page de France Culture. Demain, la Chine, démocratie ou dictature, c'est chez Gallimard. Merci, bonne journée.